Bien, bonjour à tous et à toutes pour ceux qui arrivent et pour ceux qui étaient déjà à la séance précédente. Vous voyez qu'on a maintenant trois hommes. Tout à l'heure, on avait trois femmes. Hier, il y avait deux femmes et un homme. Demain matin, il y aura une femme et un homme. Enfin, on respecte la parité. Mais comme tout à l'heure, il y avait une supériorité manifeste des femmes à la tribune, on rétablit l'équilibre. Alors, merci d'être là. Donc, ce débat va porter sur la question de la liberté de la création et de la liberté artistique et aussi de la liberté d'expression, tous ces problèmes étant proches. Ce matin, nous avons été avec Lilian Sali, Amos, Thomas Chassé, on a été visiter la galerie du musée des Beaux-Arts, dans lequel il y a une très belle exposition. Je la recommande pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Et j'ai noté cette phrase sur un des panneaux. Les panneaux sont très bien faits. C'est par la beauté que l'on s'achemine vers la liberté. Et c'est une phrase de Schiller qui est tirée des lettres sur l'éducation artistique de l'homme de 1795. Belle phrase. Et alors, cette phrase m'a fait penser que la question de la liberté artistique. Tu cherches? S'est posée à toutes les époques. Et évidemment. En visitant l'exposition ce matin, je voyais l'explosion qu'il y a eu au moment de la Révolution française et au moment où la liberté de créer, la liberté d'écrire, la liberté de s'exprimer, la liberté a connu une effervescence extraordinaire. Et cette effervescence a porté ses fruits puisque d'un seul coup, un certain nombre de lois et ensuite de manifestations artistiques qui ont connu des vicissitudes nombreuses au fur et à mesure des révolutions et des contre-révolutions au 19e, mais ont posé bien le problème. Et c'est la même question qui se pose aujourd'hui, finalement, c'est toujours la même question, à savoir jusqu'où peut-on aller dans l'expression artistique, quelle est la liberté de créer, par quoi, à quoi. Et à qui se heurte-t-elle? Évidemment, la question de du pouvoir politique et de la censure se pose, s'est posée et se pose aujourd'hui en des termes nouveaux, mais de façon très très forte. La question, évidemment, aussi de la liberté économique, la liberté par rapport aux puissances de l'argent, et puis du pouvoir religieux qui, dans les domaines de la liberté d'expression artistique, se manifeste de façon régulière et c'est à ces problèmes qu'il faut essayer de répondre. Les artistes ont-ils le droit de tout faire? Peuvent-ils tout faire? Jusqu'où peuvent-ils aller? Et ensuite, quel est leur pouvoir sur la société? Est-ce que finalement leur responsabilité ou leur tentation, leur goût pour l'expression la plus libre, où s'arrête-t-elle? Et quelle efficacité a-t-elle? Voilà un peu toutes les questions dont on va discuter dans ce débat et qui se posent aujourd'hui en des termes nouveaux, à la fois à cause de la numérisation et du phénomène des réseaux sociaux, qui posent un nouveau problème, un peu inédit. Donc c'est un sujet important dont on parlera au cours de ce débat. Du fait de la montée du populisme et donc de la remise en cause aussi des démocraties sous leur forme habituelle. Or, nous étions habitués à avoir une évolution vers un progrès presque indéfini, et on voit que finalement tout ça est assez fragile. Donc, toutes ces questions qui se posent dans un contexte totalement différent, non seulement à l'échelon de la mondialisation, puisque la mondialisation est aussi une des caractéristiques qui pose la question de savoir comment on peut diffuser les mêmes œuvres par cet intermédiaire de la numérisation, sans heurter des sensibilités, des pratiques, des idées, des théories, des religions dans tous les pays, c'est une question nouvelle qui se pose. Alors, nous allons commencer le débat en donnant la parole à nos invités. Donc, Amos Gitai, que vous connaissez tous, cinéaste mondialement connu. Je le connais très bien, nous avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Mais j'ai quand même une petite fiche parce que quand on voit l'étendue de son œuvre, 90 œuvres, hein, films documentaires, films de fiction, œuvres qui sont difficilement classables, peut-être entre les deux. Depuis le journal de campagne, Amos, vous le savez, est israélien, il est né à Haïfa. Il a travaillé beaucoup sur la question et sur Israël, sous toutes ses formes, le journal de campagne, et puis les films très connus qui ont tous été repérés dans les festivals, comme Kippour, Kadmos, Kedma, notamment cette trilogie, mais aussi beaucoup de documentaires, News from Home, Berlin-Jérusalem et beaucoup d'autres films. En fiction, son œuvre est aussi considérable, y compris un film que Amos a réalisé à partir d'un livre que j'avais écrit, jusqu'à son dernier film, Un tramway à Jérusalem, Lettre à un ami de Gaza. Enfin, c'est les deux dernières œuvres produites par Amos, sans compter un très grand travail au théâtre, pour la mise en scène en particulier à travers Isaac Rabin ou d'autres œuvres théâtrales qui ont été lues ou jouées, je pense en particulier à Avignon par Jeanne Moreau, il y a quelques années, et des entretiens, des livres, des expositions sur le travail de son père, des expositions sur le travail aussi sur les lettres de sa mère, et récemment une série de cours au Collège de France qui viennent d'être publiés, que vous trouverez à la librairie ici en sortant. Thomas Schlesser, comme vous le voyez, est plus jeune, donc sa production est forcément moins importante. Il dirige la fondation Hartung Bergmann, qui est à Antibes, et on le remercie, comme Amos d'ailleurs, d'être venu exprès à Bordeaux pour la circonstance. Un grand voyage pour Amos, un plus petit voyage, mais on y est très sensible pour Thomas Schlesser. Il est professeur à l'École Polytechnique, il est historien de l'art, il a travaillé pour Beaux-Arts Magazine et publié un certain nombre de livres, dont L'art face à la censure, qu'on était en train de feuilleter juste avant de ce débat, que vous trouverez également à la librairie. Et il a beaucoup travaillé sur le lien entre les champs esthétiques et politiques. Sur Courbet, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc voilà, alors ce débat va se passer de la façon suivante. Amos doit nous quitter à 6h15, donc on va d'abord avoir un débat à 3, et puis on poursuivra par un débat à 2 avec la salle. Peut-être que dans une heure environ, on s'arrêtera un petit moment pour que, si certains veulent poser des questions spécifiques à Amos Gitaï, ils puissent le faire avant son départ, et nous reprendrons ensuite le débat avec Thomas compléter la séance que nous avons aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais donner la parole en premier à Amos en lui posant la question. Compte tenu du contexte très différent dans lequel nous évoluons aujourd'hui, et lui qui connaît aussi bien, comme je l'ai dit, Israël, où il vit en partie, et la France, où il vit en partie, sans compter les nombreux voyages qu'il fait, comment se pose aujourd'hui cette question de la liberté de créer, de la liberté d'expression dans des démocraties aussi différentes d'ailleurs qu'Israël et que la France, et plus généralement dans le monde?
Alors, d'abord, Jérôme, je suis ravi d'être à côté de toi, à côté de Thomas, et aussi dans la ville de Bordeaux, où j'ai réalisé il y a 10 ans exactement une grande installation qui était dans les bases sous-marin, qui était une sorte de dialogue avec cet espace qui a une vraie charge historique. Et ça m'a intéressé, comme j'étais formé comme architecte, de voir toujours un rapport avec l'architecture. Alors, tout à l'heure, on a parlé, avant de répondre à votre question, on a parlé de cette base sous-marin qui va être refaire. Et moi, je trouve que si je peux lancer une proposition à la ville de Bordeaux, il faut dialoguer avec l'histoire de ce morceau d'architecture. J'appelle ça morceau d'architecture parce que je sais qu'ils sont eux-mêmes en projet de débarrasser de cette pavé de béton, mais c'est impossible. Et des fois, c'est bien. C'est bien parce qu'il faut qu'il y ait d'obstacles aussi. C'est-à-dire que pas tout est transformable. Mais je crois que c'est un vrai challenge de parler de l'histoire de cette architecture qui est oppressive, construit par les nazis pour attaquer l'Atlantique, dans laquelle, tout à l'heure, je partageais cette information avec Alain Juppé, mais il n'était pas complètement au courant, qu'apparemment, il y avait des ouvriers espagnols qui participaient dans les constructions, qui étaient enterrés dans les murs de cette base sous-marin. Alors, comme je respecte beaucoup la ville de Bordeaux, je trouve qu'à la place de faire un espace culturel sympathique, il faut prendre le challenge de dialoguer avec l'histoire de cet endroit qui est particulier. Si vous êtes d'accord. C'est qui est pour, hein? Bon, on a un petit majorité. C'est à vous. Je comptais tout. Ouais. Tout est compté. Non, parce qu'on est dans le monde dans lequel l'art devient un aspect trop décoratif. Et je trouve qu'il faut l'art et la culture engagent avec le réel. Et c'était d'ailleurs mon parcours vis-à-vis mes chers compatriotes qui ne sont pas toujours partagés mon point de vue critique sur la politique actuelle d'Israël, mais je trouve que le meilleur hommage qu'un artiste il peut faire à un pays qu'il aime, c'est d'être critique. Critique, pas parce qu'on a envie de détruire, parce qu'on a envie que les choses vont aller mieux. Et si on regarde l'histoire, et si je continue ma proposition à Bordeaux, comme je suis soutenu par la majorité.
Voilà, vous
dites. Alors, si je continue.
Encore un nouveau maire.
Voilà. Alors, si je continue cette proposition, c'est parce que je trouve que des fois, il faut regarder le passé pour voir l'idée d'avenir. C'est-à-dire de regarder vers le passé, il n'est pas strictement décoratif ou sentimental, mais aussi il nous donne des idées, qu'est-ce qu'il faut faire ou aussi qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Et je trouve que c'est un magnifique challenge de Bordeaux d'engager avec cette histoire, que si j'ai bien compris, parce que moi je suis toujours curieux de comprendre dans quel contexte je travaille, c'était un projet de Hitler de faire des séries de bases sous-marins. J'imagine qu'il est à Saint-Nazaire et à Nantes aussi. Et c'était d'abord délégué aux Italiens, mais comme les Italiens, ils ont fait trop de siestes. Alors les nazis ont pris le pouvoir, ils ont effectivement torturé et fait travailler les antifascistes espagnols. Et je trouve que ça fait un des héritages de Bordeaux. Ce n'est pas strictement les magnifiques buildings, les grandes avenues bien restaurées, les tramways, etc. C'est-à-dire qu'il faut que le passé ait là un part active pour l'avenir. Alors, moi, je vous encourage de suivre ce petit conseil amical. Et pour revenir à ta question, parce que tu sais, moi, je suis un peu les dialectiques juives, c'est-à-dire que je réponds à ta question par une autre question. Je vais aller même...
Le Talmud qui revient.
Ouais, tout à fait, oui. Alors, je vais aller même avant le Talmud, le texte biblique, parce que le texte biblique, il nous raconte, surtout l'Ancien Testament, parce que je suis une fils d'un architecte de Bauhaus, qui était mon père, qui était battu et jugé par les cours nazis, tout de suite en 1933, comme Goebbels. Goebbels a décidé de fermer le Bauhaus. Alors, mon père était battu, ils ont cassé ses dents, ils sont mis en prison. Mais plus tard, il était jeté, heureusement, sur les frontières suisses. Sinon, je n'ai pas eu l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Et après, plus tard, il arrivait en Palestine par l'idée de construire l'architecture moderne pour le kibbutz et pour l'autre institution israélienne, l'architecture. Dans ce sens-là aussi, elle n'a pas strictement un rapport décoratif. C'est un engagement de paramètres sociaux et politiques. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a une mauvaise lecture de Bauhaus qui décrit le Bauhaus strictement comme de belles architectures avec des lignes très droites. Mais le Bauhaus était une synthèse entre une pensée politique et sociale et l'esthétique, minimaliste. Et d'ailleurs, comme on a parlé tout à l'heure des nazis, alors ce n'est pas un hasard que Goebbels il a fermé le Bauhaus, même avant qu'il a fermé l'école marxiste. parce qu'il a considéré que l'architecture minimaliste, transparente, simple, c'est une menace des besoins nazis, des choses pompeuses, kitsch et énormes. C'est-à-dire l'esthétique, elle a aussi ses propres discours politiques. Alors, comme je parlais tout à l'heure de Bible, c'est à cause de ma mère, qui était une femme laïque, mais prof de Bible. Et elle m'a toujours expliqué que la Bible, c'est un grand discours critique des pouvoirs. Et si on regarde, par exemple, la Bible, les rédactrices ou rédacteurs en chef de Bible, il y a plus que 2000 ans, il a pensé que c'est important de garder les mémoires, que les rois, ils sont corrompus. Ils méritent d'être critiqués. Et le roi le plus célèbre des Juifs est David. Et il est confronté avec le prophète Nathan, qui lui dit, vous êtes un homme immoral, parce que comme vous avez désiré Bathsabée, vous avez envoyé son mari d'être tué dans la guerre. Et la rédactrice ou rédacteur des chefs de Bible, il a pensé que c'est important de garder cette leçon critique pour le DNA des futures générations, c'est-à-dire la pensée critique, elle est nécessaire, on a besoin d'elle pour faire avancer. Et heureusement. Des fois, je raconte cette histoire pour revenir, cher Jérôme, à tes questions, parce que mes chers compatriotes, qui sont très fiers d'être juifs et les gens de livres, oublient que le discours critique fait partie de cette culture. Et la fétichisation des pouvoirs et des rapports de force, ce n'est pas exactement dans cette culture-là. Alors, il faut le rappeler. Il faut le rappeler au nom de l'honneur de cette grande rédactrice ou rédacteur en chef qui pensait que cette pensée est nécessaire pour avancer. Je fais un peu de loupe à mon système. Effectivement, Jérôme, l'expo qu'on a vu ensemble, qui est intéressant, elle raconte effectivement, avec des textes intéressants et des chartes, que la pensée politique ou artistique, elle a un rythme très différent que la politique. La politique, on a besoin tout de suite d'exprimer une opinion. Mais l'art, l'architecture, le cinéma, la littérature, c'est pas, nous, on n'a pas de vrai pouvoir. Il ne faut pas qu'on pense qu'on a de vrai pouvoir. On a un pouvoir strictement symbolique. Mais ce n'est pas rien. Parce que les textes qui sont... Il y avait une très belle charte avec des dates. Le texte dans cette expo explique effectivement tous les grands textes des penseurs avant la Révolution française. C'est des textes qui étaient écrits des dizaines ou même des centaines d'années avant que c'était traduit en action politique. Alors, comme j'ai fait, Jérôme il a mentionné pas mal de travail sur les mémoires israéliennes et aussi la critique de la politique, surtout sur l'affaire et le conflit israélo-palestinien. Je pense que c'est aussi un geste symbolique qui, dans leur sens accumulatif, il devient une sorte de démarche, de rapport, de dialogue avec cette réalité perturbée dans cette région qui n'est pas facile. Mais comment on peut, pour revenir à ta question, un pays ouvert avec des institutions qui protègent des institutions démocratiques, en vivant à côté des volcans, en vivant dans cette région qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente, mais quand même, il faut garder une dimension humaine, des dialogues humains, et l'art et le cinéma, il peut faire une sorte de proposition. Alors, le film est plus récent, et je termine avec ça, que vous avez mentionné, qui s'appelle « A Letter to a Friend in Gaza », « A lettre à mon ami de Gaza », qui était un court-métrage qui était présenté l'année dernière au Festival de Venise, qu'on a fait ensemble des acteurs palestiniens et des Israéliens, qui après il était présenté dans le monde entier, à Tokyo, São Paulo, etc. C'est un geste de ce sens-là, parce que des fois, il faut faire un film comme on a des rages. Et comme Israélien, je ne suis pas du tout fier de cette démarche que le pouvoir actuel en Israël y suive, dans laquelle où il a donné l'ordre de tirer avec des snipers sur des manifestants non armés palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On fait un geste artistique, c'est ça le rôle de l'art. Et cet court-métrage était, après, on a fait une adaptation théâtrale, et qui va être aussi à Paris pour l'ouverture des saisons de théâtre de la ville de Paris le 4 septembre, si ça vous intéresse. Et sur le plateau, on va trouver des acteurs israéliens, des acteurs palestiniens, un musicien iranien, un musicien syrien, et tous ces gens qui 10 ans présentent des cultures qui ont un conflit direct, ils vont faire un travail créatif commun. C'est-à-dire le plateau de ce théâtre et va être une zone de dialogue et pas une zone de conflit ou de guerre. Et c'est un petit geste symbolique, mais il faut commencer quelque part. Merci.
Merci beaucoup, Amos. On comprend bien en t'écoutant que la politique est au cœur du geste artistique, finalement, et que l'art décoratif n'a pas beaucoup de place par rapport au contact avec le réel et avec la société. Et que finalement, le rôle de l'artiste, c'est de se confronter au réel pour exprimer par rapport à une situation essentiellement politique. Donc ça pose la question du rapport avec la politique, qui est un rapport évidemment tendu et conflictuel, et qui dérive soit sur la censure, soit la permissivité la plus grande. Et il faut aujourd'hui trouver son chemin, quelles que soient les régions d'ailleurs dans lesquelles on vit, quels que soient les pays et quels que soient les régimes. Donc c'est la question centrale aujourd'hui. Donc je me tourne vers Thomas Schlesser pour lui demander son point de vue là-dessus et puis sur d'autres points s'il veut les aborder.
Merci Jérôme. Moi aussi, comme Amos, j'ai envie de repartir d'une petite histoire passée pour répondre donc à la question de Jérôme Clément. Cette histoire, elle est de 1573 et elle se passe à Venise. Alors Venise, à ce moment-là, est une république. Mais évidemment, ce n'est pas une république au sens où on l'entend aujourd'hui. Et c'est une république dans laquelle règne l'Inquisition. L'Inquisition qui est à ce moment-là un pouvoir légal et qui veille sur le bon fonctionnement, disons, juridique et sur, sans anachronisme excessif, sur ce qu'il est convenu d'appeler la création ou la libre expression. Pourquoi ? Parce que Venise est une grande ville d'art. Une grande ville de peinture. Et précisément, en 1573, il y a un décor qui est commandé. Un décor pour le réfectoire d'un couvent et qui est commandé à un peintre que vous connaissez au moins de nom, très célèbre, qui s'appelle Véronèse. Et ce décor est censé montrer la scène, donc le dernier repas du Christ. Et Véronèse fait quelque chose d'absolument fastueux. C'est un décor magnifique, mais dans lequel on a le sentiment que ce banquet final et dramatique, eh bien, est au contraire un moment extrêmement joyeux, avec des serviteurs, avec des animaux, avec même des bouffons. Donc il n'y a pas que Jésus et les apôtres, mais une sorte comme ça de spectacle assez fascinant pour l'œil. Et Véronèse est dénoncé. Et il passe en justice, dans ce qui est donc le tribunal de l'Inquisition, de 1573 à Venise. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas du tout de passer Véronèse à la question et de le torturer, mais ce qu'il y a d'absolument extraordinaire, j'insiste, extraordinaire, c'est que ces minutes du procès de Véronèse ont été conservées. C'est-à-dire qu'il y a des archives. Ce n'est pas une tradition orale, c'est bel et bien des preuves écrites, une documentation que nous avons sur cet échange entre un tribunal religieux et politique, et un artiste. Amos est extrêmement sensible à la question des archives. Et je vous assure que aujourd'hui, autant il peut y avoir facilement une conservation de tout ce qui constitue le patrimoine d'une vie, le patrimoine d'une pensée, mais au XVIe siècle, c'est rarissime. Donc cette pièce, elle est au moins aussi exceptionnelle qu'un tableau du XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'on lit là-dedans ? Eh bien, on lit à un moment donné le tribunal qui demande à Véronèse « Dites-moi, cher maître, globalement, comment est-ce que vous figurez le dernier repas du Christ ?» Alors Véronèse répond et évidemment est un peu embarrassée puisque la chose ressemble à une profanation de ce qui est censé être un paroxysme du sacré. Et à un moment, Véronèse a cette réponse qui est tout à fait fondamentale. Nous autres peintres, nous permettons de ces licences que se permettent les poètes et les fous. Je répète, nous autres peintres, nous permettons de ces licences que se permettent les poètes et les fous. Il n'y a pas un avant et un après Véronèse. Je suis pas du tout. Vous savez, quand on fait de l'histoire, c'est pas des moments de bascule comme ça où il y aurait tout à coup une date qui changerait tout du jour au lendemain. Pas du tout. C'est comme disait Mathilde Serrel tout à l'heure. J'adore cette expression. C'est un signal faible. C'est juste un tout petit point de détail, mais en revanche, c'est un indice. Et c'est l'indice de quoi? C'est l'indice d'un changement très très lent qui a mis beaucoup de temps à s'imposer, mais qui aujourd'hui est le contexte dans lequel nous vivons dans les pays dits démocratiques, qui est celui d'une double affirmation et d'une double conquête. D'une part, Véronèse affirme une émancipation des formes. C'est une émancipation symbolique. Ça veut dire, pour le faire simple, face à un sujet donné, moi, en tant qu'artiste, je peux le traiter exactement comme je veux. Toute forme est légitime du point de vue de l'artiste. Ce qui va donner au XXe siècle, par exemple, le fait qu'on peut tout à fait considérer qu'un objet manufacturé, le ready-made de Marcel Duchamp Fontaine, eh bien, fait partie du champ des beaux-arts. Donc, première conquête. Deuxième conquête absolument essentielle, l'invention de l'individualité. Moi, en tant que peintre, je me permets de ces licences, je me permets une liberté que se permettent les poètes et les fous. Et si vous voulez, c'est très important par rapport à ce que disait Amos à l'instant. Parce que c'est même assez vertigineux. C'est-à-dire que, de prime abord, on a l'impression que le pouvoir des artistes est un pouvoir en sourdine parce qu'il n'est que symbolique. Mais en réalité, c'est une force d'infléchissement sur les consciences qui permet ensuite à tout le corps social d'en profiter. Et je dirais de ce point de vue-là que les artistes, sans vouloir les héroïser bêtement, ont bien fait le boulot. Depuis la Renaissance, ils ont permis que nous vivions dans une société où nous sommes libres d'adopter les formes symboliques que nous voulons et où nous sommes libres d'affirmer notre individualité. Question qui se pose, maintenant que nous sommes en démocratie, quel usage fait-on de la liberté qui nous a été donnée? Quel usage fait-on de notre libre expression, de notre libre création? Et j'aurais tendance à dire en la matière que là, les réponses sont en train de se formuler en ce moment même, mais qu'on est dans un vrai moment critique et un vrai moment de doute extrêmement intéressant. Juste pour terminer la petite histoire sur Véronèse, parce que évidemment certains d'entre vous se disent « qu'est-ce qui lui est arrivé à ce pauvre Véronèse ?» Rien de mal, rassurez-vous. Simplement, il a été condamné, vous allez voir, c'est une forme de censure insidieuse très très intéressante, il a été condamné à changer de titre. Ce qui devait être la scène, finalement, c'est appelé le repas chez Lévi, chez Matthieu. C'est-à-dire un moment qui, dans le Nouveau Testament, est un moment, en effet, de fête, de célébration et fastueux. Et donc, où il n'y a pas cette dimension tragique du dernier repas du Christ. Et donc, la sémantique, le sens de l'œuvre réorientée par ce nouveau titre, du coup, a permis à l'œuvre de continuer à exister. Et je dirais une dernière chose sur laquelle on peut réfléchir ensemble plus tard. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a évidemment l'affirmation de la liberté de l'artiste et de sa liberté d'initiative à créer une œuvre. Mais il y a également la liberté d'opinion de ceux qui se sont dit offensés. Et la libre expression, c'est aussi la libre expression de dire « je me sens offensé par l'œuvre de Véronèse ».
Alors, merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. D'abord, l'anecdote en soi, l'histoire en soi est très intéressante. Elle montre d'une façon claire plusieurs choses. La première, c'est que tout dépend du contexte. Parce que quand on voit aujourd'hui le tableau de Véronèse, on ne comprend pas du tout, finalement, pourquoi il a créé ce que les orateurs précédents appelaient une offense ou une injure, je ne sais pas, je suis prudent. Mais en tout cas, le contexte a complètement changé, donc si on ne connaît pas l'histoire, on a du mal à le comprendre. Mais elle montre aussi le pouvoir subversif de l'art. Et en écoutant Thomas, je pensais évidemment à l'expression la plus totalitaire qui a été connue, c'est-à-dire le nazisme, dans lequel l'art dégénéré, ce qu'on appelait l'art dégénéré, a été brûlé, c'est-à-dire tous les artistes contemporains qui exprimaient une forme débarrassée à la fois du formalisme précédent et d'un contenu trop classique pour imposer un contenu Brenner, que vous connaissez, le sculpteur, etc. Donc, voilà, je trouve que ces exemples et tout ce qui a été dit montrent que la question se pose en permanence, quoi. Elle se repose de façon chronique. Et je voudrais revenir un petit peu à une question précédente, mais qui est illustrée par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire, aujourd'hui, dans la démocratie d'aujourd'hui, avec toutes ces complications qu'on a évoquées en introduction, comment vous voyez le problème ?
C'est-à-dire, je vais aussi mesurer un peu les choses, et je suis complètement d'accord avec les choses qui étaient dites par Thomas. C'est-à-dire, ça implique aussi des autodisciplines d'artistes. Et par exemple, moi, je trouve que des cinémas démagogiques pour les bonnes causes, style Michael Moore, elles sont négatives. Parce qu'ils nous forcent par la force, par une démarche démagogique et manipulative, de suivre un argument qu'a priori, je ne suis pas contre. Je trouve qu'il faut critiquer le projet de la guerre d'Irak. Mais si on implique un système de montage manipulatif, on fait les défaites de cette démarche. C'est-à-dire
pourquoi manipulatrie ? Pourquoi Michael Moore est manipulateur ?
Parce qu'on colle un petit morceau de tête de bouche à un bombardement de la guerre. Et je ne vais pas rentrer maintenant parce que je ne veux pas élargir. Mais je dis que ça demande aussi ce besoin d'une autodiscipline d'artiste, de ne pas raccourcir le chemin. C'est-à-dire qu'il faut faire des vrais forts. Mais pas sans manipuler trop la pensée, c'est-à-dire sans essayer de nourrir par la force.
La question de la démonstration.
Non, il faut nourrir par la réflexion. Tu sais, il ne faut pas rentrer dans les systèmes des sociétés de consommation qu'il faut produire des produits de consommation. C'est-à-dire on a besoin de public qui devient interprète. D'ailleurs, comme il y avait tout à l'heure une discussion dans laquelle il y avait des oppositions, c'est légitime. Comme tu as dit, Thomas, c'est légitime de ne pas être d'accord. Ça fait partie du discours. Et il ne faut pas écraser ce débat. Le débat est nécessaire, même pour élaborer des points de vue qu'a priori, on est pour. Alors, et pour revenir à ta question, comme je parlais tout à l'heure d'espagnol, si on regarde, et comme vous avez, Thomas, il a évoqué la question de la peinture, on peut regarder, par exemple, les gestes célèbres de Picasso, comme il fait le tableau de Guernica. Alors, qu'est-ce que c'est, comme on a parlé de contexte, qu'est-ce que c'est Guernica ? Alors, aujourd'hui, on peut regarder Guernica, on parle des compositions de couleurs, des cadres, des proportions, mais on peut dire le contexte, que les sortes d'échafaudage qui fait nourrir de bons œuvres, c'est le bombardement des villages basques par les Luftwaffe en 1936, Picasso. Je ne fais pas la comparaison, mais nous, on a fait le projet Letter to a Friend in Gaza. Picasso, il est en rage. Et son médium, c'est la peinture. Alors, il fait une peinture. Okay? Et aussi, il utilise les petites sanctions que l'artiste, disons, il a dit, ce tableau-là, il ne va pas quitter New York pour le retour en Espagne tout au long de la vie de Franco. C'est seulement après la mort de Franco, j'autorise qu'il revienne à l'Espagne. Bon, la MoMA, elle essaie de retarder ça, mais de tenir les Guernica, mais aujourd'hui, là, dans les Reina Sofia à Madrid, est très, très bien disposée. C'est-à-dire, il utilise son médium, qui est la peinture, pour montrer sa rage. Et le contexte d'échafaudage est changé, tu parles d'aujourd'hui. Alors, pas tout le monde, malheureusement, ils ont les connaissances de cette vague de fascisme qui a commencé dans les pays voisins, avec l'aide des nazis et des Luftwaffe. Alors, il a fait un geste qui reste dans la mémoire. Et qu'est-ce qui se passe l'année dernière ? par des hasards des circonstances politiques, l'Espagne a élu un premier ministre socialiste. Et qu'est-ce qu'il dit qu'une de ses priorités, c'est virer Franco de son mausolée kitsch, de les sortir de ce mausolée. Alors, on ne peut pas attribuer ça à aucune vraie de force politique, mais strictement la mémoire. Alors, les gens, ils ont beaucoup de confiance, l'argent, les mitrailleuses, etc. Mais la mémoire, il n'est pas innocent. C'est une dimension très forte, la mémoire et les idées. Il ne faut pas avoir, être timide avec les idées. Alors, le travail de Picasso, d'écrivains, de Simpron, des autres, qui fait tout ce travail de conserver la mémoire d'une autre vision de l'Espagne, pas de l'Espagne fasciste, arriver jusqu'à un premier ministre d'une autre génération, et là, c'est traduit finalement d'une petite action politique. Et c'est strictement, c'est pour ça que je trouve qu'il ne faut pas, faire de raccourcissement. C'est-à-dire, même si là, tu m'as posé la question, Jérôme, sur Israël. Et Netanyahu est gagnant, parce qu'il est très habile de manipuler des systèmes politiques. Il faut garder l'espoir, et il faut garder l'espoir que ça va changer, et ça va changer. Alors, tu me poses, comme on dit souvent, est-ce que tu es pessimiste, optimiste? Ce n'est pas ça la question. C'est-à-dire, si je suis pessimiste, alors, les conclusions, c'est d'être nihiliste. Non, l'espoir, c'est une chose qu'il faut garder, parce que l'espoir, par lui-même, il peut modifier des choses, même si ce n'est pas immédiat. Ça ne va pas être immédiat. Les paramètres sont très compliqués, je ne vais pas aller trop loin. Alors, les traductions, l'impact des gestes de la pensée, de la philosophie, de l'art, du cinéma, de la littérature sur le réel existe, mais il n'est pas instantané, il n'est pas immédiat. Il y a un délai, mais il est nécessaire parce qu'il garde une autre option, une autre idée par des médiums assez variés, c'est-à-dire la philosophie, l'art, la peinture, le cinéma, etc. Et c'est vraiment une sorte de geste civique, mais pas sans démagogie qu'on fait pour faire avancer les choses.
Merci. Alors, là, on est au cœur d'un débat. L'art peut-il changer le réel et le rôle de l'artiste est-il de s'affronter au réel?
En fait, ça, c'est une conception de l'art dont on est quasiment capable de dater à l'année près, la naissance. Cette année, c'est l'année 1819. En 1819, vous avez un grand penseur, réformateur du nom...
Je croyais que c'était 1573.
Alors,
parce que leur page chez Lévy, c'était aussi...
Bien sûr, sauf que c'est dans le cadre, en fait, je dirais, d'une conception intime et d'une conception strictement individuelle. Ce qui se passe en 1819, c'est quelque chose d'assez étonnant qui va être... le fait d'assigner à l'art une mission d'émancipation collective. Ce penseur qui va exiger de l'art qu'il assume cette mission, cette ambition extraordinaire, il s'appelle Henri Saint-Simon, celui qui a donné le nom au courant des Saint-Simoniens. Et ce Saint-Simon est celui qui va inventer, ou plus exactement qui va proposer, le terme métaphorique d'avant-garde. Vous savez, quand on parle d'avant-garde aujourd'hui, tout le monde pense immédiatement à l'avant-garde culturelle et artistique. Mais avant-garde, j'imagine que vous le savez, à la base, c'est du vocabulaire militaire. Et en réalité, on sait, on peut dater ce moment où il y a cette bascule sémantique. Et Saint-Simon dit aux artistes, c'est vous qui devrez servir d'avant-garde à la société des juristes, à la société des médecins, à la société des ingénieurs, à la société des clercs, etc., etc. C'est vous qui devrez être en avant pour leur montrer le chemin. D'accord ? Et donc ça, c'est une idée vraiment qui est très récente, qui est une idée du 19e siècle, une idée romantique. Et je ne vous dis pas ça marche ou ça ne marche pas, mais en tout cas, le moment où elle est véritablement formulée, c'est au 19e siècle où elle s'adosse en fait à la notion de progrès qui devient la nouvelle espèce de nouvelle divinité, nouveau concept divin au 19e.
Reprise aussi au moment de Maïakovski et de la Révolution russe.
Absolument.
L'avant-garde.
Absolument. Et en fait, et à tel point d'ailleurs que le terme avant-garde, au début du XXe siècle, chez les Italiens, les Russes, les Français, devient une notion vraiment historique. Tout le monde se réclame de l'avant-garde. Juste pour vous dire une petite chose qui me semble importante, c'est que, pour être très, très concret, donner un exemple très simple. Certains d'entre vous ont assisté au précédent débat qui portait notamment beaucoup sur la lutte contre les stéréotypes de genre. Mais qui a beaucoup mené ce combat symbolique, un peu en sourdine, dans les années 70-80 ? Bien sûr, beaucoup de militantes et de militants, ça ne fait strictement aucun doute. Mais énormément d'artistes. Et en fait, il y a beaucoup d'artistes, je ne dis pas c'est bien, c'est pas bien, je ne veux pas revenir dans le débat précédent, je ne veux pas du tout m'immiscer dedans. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que la capacité des artistes à infléchir le cours des consciences, même si, comme le dit Amos, c'est sur le temps moyen, voire le temps long, ça c'est certain, ce n'est pas du jour au lendemain, ce n'est pas une prise de conscience comme ça qui est soudaine, elle est absolument évidente. Je vous donne un autre exemple, je ne vais pas en donner 50, mais je vous donne un autre exemple très concret. Il y a aujourd'hui, on le sent depuis 5-6 ans à peu près, une énorme révolution des consciences sur la condition animale, comme il n'y avait absolument pas dans les années 90. Dans les années 90, je veux dire, c'était vu comme un sujet quasiment niais, hein, de la sensiblerie. Mais croyez-moi que l'œuvre de nombreux artistes anciens, d'ailleurs, comme votre amie Rosa Bonheur de Bordeaux, je crois que c'est son père qui est de Bordeaux, elle, je ne sais plus, mais en tout cas, grande peintre animalière qui est attachée à cette région. Et puis, évidemment, des artistes plus récents, des artistes contemporains, ont eu un impact absolument immense en la matière, sans forcément qu'on se le formule de façon directe.
Alors, sur cette notion d'avant-garde mise en avant par Thomas Amos, qu'est-ce que tu es d'accord avec ça ?
D'abord, je trouve que je dois te donner des compliments. Je trouve que les configurations de cette dialogue, et c'est aussi un dialogue entre des siècles, parce que Thomas il a évoqué le 16e siècle, maintenant le 19e, moi je parle des 20e, le siècle actuel. Alors, je trouve que ça montre des paramètres qui sont communs. On peut aller même plus loin. Je parlais tout à l'heure de Bible il y a 3000 ans. C'est-à-dire, je crois que c'est depuis le début de l'humanité, on l'a pensé, cette série de réflexions continuées. C'est-à-dire, la démarche d'artiste, il est individuel, il n'est pas collectif. C'est-à-dire, ils ont un impact sur les collectifs, mais chaque écrivain, chaque cinéaste, c'est une démarche individualiste, mais avec un dialogue avec le contexte. Et cette tension-là entre le contexte et l'individu, elle est importante. Et surtout, pour éviter que l'art devienne strictement décoratif, c'est-à-dire, l'art ou la culture, il ne faut pas qu'il reste strict. C'est-à-dire, c'est assez complexe. Il y a un élément esthétique nécessaire parce que le film ou même le texte, ils sont en rapport entre un narratif ou un thématique, c'est-à-dire le contenu, on peut dire, et la forme. Et les deux paramètres sont nécessaires. C'est-à-dire, un film qui est strictement thématique, ce n'est pas un bon film. Un film qui est strictement formel, vide de thématiques, il a ses propres, on peut poser des propres questions. C'est-à-dire, c'est toujours une démarche entre les questions de forme, des questions de la représentation, et les thématiques ou les narratives. Et d'ailleurs, comme tu m'as posé la question sur le Moyen-Orient ou Israël, c'est une région la plus grande concentration, peut-être, de caméras par mètre carré de la planète.
En concurrence avec la ville de Levallois, à Amos, où je crois que c'est pas mal non plus.
Peut-être. Alors la question, c'est comment on peut faire du cinéma dans un contexte dans lequel que les médias, je reviens à une de votre question, elle fait un travail très, très massif de représentation et de misrepresentation des réels. Et comment le cinéma, il peut aller, j'applique un autre terme, dans un sens un peu subversif, contre l'élimination des contradictions. C'est-à-dire, il y a des contradictions. Le conflit israélo-palestinien, ce n'est pas une division entre les gens angéliques the bastards. It's not a division between angels and bastards, but they are both angels and bastards, peut-être dans proportion pas complètement symétrique. Mais il ne faut pas rentrer dans l'angélisme, c'est-à-dire il y a des contradictions. Chacun il a contradictions. Chaque côté il a contribué à bloquer les situations dans lesquelles on est aujourd'hui. Et les médias enhance, soutient cette perception. Alors comment le cinéma peut à la fois introduire des contradictions, démonter l'image simpliste des uns ou des autres pour améliorer la compréhension de ce conflit. C'est un challenge assez massif, qu'il y a plusieurs réponses dans les termes de cinématographie. C'est-à-dire, moi, je tourne souvent d'un rythme beaucoup plus lent, parce qu'il faut changer même la question des rythmes, des perceptions. Il change la perception. Comme je fais Kadosh, qui est sur la religion, je respecte d'une quelque façon l'aspect cérémonial que chaque religion est là. Mais je la critique, la religion. C'est-à-dire, je fais un travail dialectique entre les rythmes. Il y a un aspect de séduction. Tout à l'heure, vous avez parlé, il y a des idées religieuses. C'est-à-dire, je comprends l'aspect de grande séduction des religions. Parce que dans le monde aujourd'hui, très haché par des images et des vies accélérées, la religion, elle a un aspect de séduction. Elle change le rythme. On rentre dans l'église ou dans la synagogue. Tout de suite, c'est un autre espace avec une autre. Il y a des grandes séductions, même dans cette démarche. Alors, comment le film, il peut introduit cet aspect séductif de la religion, mais quand même critiquer la religion sans pitié, surtout le sujet de Kadosh et le rapport aux femmes. C'est-à-dire, il faut que les deux existent. Il faut que, sinon, on ne comprenne pas. Comme je fais Kippour, c'est la même chose, c'est la guerre. La guerre, ce n'est pas les belles films américains avec les chars, avec les bonnes lumières. La guerre, c'est le chaos, c'est une rupture. Ce n'est pas une chose très structurée. C'est dans ce chaos, comment l'individu, qui est le sujet permanent de tous mes films, est haché, est détruit par les grandes forces historiques. Alors, tout ce paramètre, il nourrit les démarches artistiques. Là, je rentre vraiment dans les matières, comment on fait un film, pour effectivement attaquer frontalement les perceptions trop simplistes de ce conflit, parce qu'on est nourri par des formules très simplistes. Et aussi qu'il faut, moi que je suis israélien, il faut que je comprenne les paramètres de souffrance de l'autre. La paix comme l'amour, ce n'est pas une affaire unilatérale. Unilatérale dans l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est une autre chose. Et dans la paix, il faut que. Alors, comme j'ai fait, tu as mentionné le travail que j'ai fait sur l'assassinat des rabbins. Et Rabin, il m'a mis dans son avion comme il est parti à Washington et au Caire. Et les choses qui m'ont intéressé, c'est comme lui, il a parlé de Gaza. Il a dit qu'il faut qu'Israël retire, il faut qu'il y ait de l'eau, l'électricité, même il dit l'oxygène dans l'hôpital de Gaza. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait vraiment de paix, etc., il faut que l'autre il a son moyen de survivre. Et tout cet aspect-là, il faut qu'il rentre. Après, comme on fait un travail cinématographique d'un conflit tellement central de l'histoire du XXe ou du XXIe, on rentre direct dans les matières de donner forme à cette série de questions qui sont dans l'abstraction, qui sont strictement dans le domaine politique. Et c'est un challenge lourd. On peut dire même fatigant, mais fascinant.
Alors, jusqu'où le pouvoir politique ou le pouvoir religieux, donc, quand on parle de travail, peut-il aller, enfin, jusqu'où peut-il accepter finalement cette interrogation, ce traitement artistique?
Bon, que ce soit. Il ne faut pas qu'il accepte, on demande personne de permission.
Parce qu'il peut interdire, c'est le problème de la censure.
Censure, c'est le sujet de Thomas, mais la censure existe.
Oui.
Mais comme tout à l'heure, on a parlé par exemple de Eisenstein ou de Zygavertov, de bons cinémas existent aussi dans certaines circonstances oppressives, comme l'Union soviétique. Et le seul endroit qui ne s'est pas existé, c'est chez les nazis. Les nazis ne sont pas produits aucune œuvre d'art au cinéma important. C'est des régimes tellement autoritaires et uniques dans l'histoire humaine qu'il a rien qui il a resté il a détruit, il a brûlé pas seulement des autres, mais il a aussi brûlé sa propre culture. Et la culture juive, elle a le premier savoir parce que l'intimité entre la culture allemande et juive était énorme, beaucoup plus importante que la culture juive avec la France. C'était des siècles que les contributions aussi des grands penseurs juifs à la culture allemande étaient énormes. Alors, cette rupture que moi je connais dans chose très minimale par l'histoire de mon père, elle était devastating. C'était une destruction totale. Et les gens qui célèbrent Leni Riefenstahl, ils sont tort. Ce n'est pas un grand cinéaste, c'est un propagandiste de base qui utilise, qui manipule des images d'une façon la plus simpliste. Elle ne mérite de rien, d'aucun honneur et d'aucun hommage. Et moi, j'ai même refusé de la critiquer dans le coffret qui était fait vis-à-vis de son travail. C'est pas, pour moi, ça, c'est des propagandes. Mais il y a certains régimes oppressifs, comme le régime communiste stalinien, qui sont quand même, il y a des cinéastes, comme je parlais seulement de deux, mais il y a plusieurs, qui ont fait des œuvres qui réussissent effectivement dans un système de répression, de la censure lourde, de faire des travaux qui méritent son honneur.
Oui,
oui, non, deux petites choses. D'abord, je souscris totalement à ce que dit Amos. En effet, dans les régimes autoritaires, il y a des contextes qui sont parfois, je ne sais pas s'il faut s'en féliciter ou le déplorer, mais extrêmement porteurs sur le plan de l'inventivité, de l'originalité artistique, par des contournements, simplement des accès de courage, etc. La deuxième chose, c'est que quand on parle de liberté et de censure, c'est vrai qu'il y a une espèce de première base méthodologique qui consiste, même si c'est un peu simplificateur, à dire est-ce qu'on parle dans un contexte d'un pays dit démocratique ou d'une géographie dite démocratique, ou est-ce qu'on est dans un pays dit autoritaire ? Alors, en ce qui me concerne, je parle très rarement des contextes autoritaires, tout simplement parce que je ne les connais pas, que je ne vis pas dedans, et que je pense que le minimum, par exemple, pour commenter la censure en Chine ou en Russie, je dis vraiment le minimum, en tout cas, ce qui est plus raisonnable, c'est d'abord de parler la langue et de connaître le pays. Hein. Donc, je peux parler, moi, que de la France. Ce que je dirais en France aujourd'hui, ça va peut-être te surprendre, Jérôme, mais c'est que la censure ne vient pas tellement du pouvoir. Pas tellement. Pourquoi ? Parce que, pour le faire
Je ne suis pas surpris.
Pour le faire disons, pour donner des grands ordres d'idées, si vous voulez, aujourd'hui, l'État est plutôt entre indifférence et bienveillance à l'égard de ce qu'on appelle la transgression artistique, dans le sens où, en démocratie, ce qui est transgressif ne l'est finalement pas tant que cela. Bon, premier point. D'où vient la censure ? La censure, elle vient de fractions de la société civile. C'est-à-dire que vous avez des groupes de gens qui s'érigent et qui disent à un moment donné, j'en appelle à l'interdiction de tel ou tel autre projet, œuvre, expression, parce que j'estime, moi, qu'elle vient offenser, perturber, humilier, fragiliser une communauté que je représente ou à laquelle j'ai le sentiment d'appartenir. D'accord ? En règle générale, ces fractions de la société civile pensent que ce qu'elles défendent, c'est la vulnérabilité de certaines choses ou personnes. Par exemple, en effet, ça peut être la vulnérabilité des femmes, la vulnérabilité des enfants, la vulnérabilité d'une communauté, la vulnérabilité des animaux, etc., etc. Donc, en règle générale, ces gens, quand ils demandent une interdiction, ne se pensent pas, et c'est très important, ne se pensent pas comme censeurs. Ils pensent qu'ils œuvrent pour l'intérêt général. Et toute la question est de savoir si, en effet, la demande d'interdiction relève de la censure, c'est-à-dire d'une interdiction abusive ou alors de l'intérêt général. Demandez par exemple d'un coup à un maire qui dit on va interdire tel spectacle parce qu'il y a potentiellement une perturbation, un trouble à l'ordre public. Et il ne vous dira pas que c'est de la censure, il vous dira que c'est de l'intérêt général. La censure n'existe pas dans le droit. La censure, c'est quoi ?
L'interdiction d'un film.
Oui, mais l'interdiction d'un film, je ne suis pas sûr. Alors, c'est possible, je peux dire une bêtise, mais je pense que c'est l'interdiction d'un visa d'exploitation, à mon avis. Je ne suis pas sûr qu'on dise dans le droit qu'il y a une censure de film. C'est possible, hein, je ne veux pas le garantir. En tout cas, ce mot censure, si vous voulez, vous allez le voir surtout apparaître dans la bouche de ceux qui se sentent censurés et qui vont dire « je suis victime, en fait, d'un abus dans l'interdiction qui frappe mon œuvre ou ma production ». Et là encore, je voudrais vous donner juste un exemple extrêmement intéressant et très simple. Un exemple récent. En 2010, il y a une exposition au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris d'un photographe, cinéaste que vous connaissez certainement, qui s'appelle Larry Clark. Larry Clark, qui dans les années 70 en particulier, a fait beaucoup de photographies de jeunes gens qui se droguaient ou faisaient l'amour et qui était, un des grands opposants culturels à la domination, à l'impérialisme américain et qui était vraiment un grand acteur de la contre-culture américaine. Exposition Larry Clark. Et parce qu'à ce moment-là, l'affaire du CAPC de Bordeaux, vous connaissez certainement, n'était pas complètement tranchée, et qu'il y avait des menaces de fermeture de l'exposition, une décision a été prise par la mairie de Paris d'interdire l'exposition aux moins de 18 ans. D'accord ? Et qu'a titré le journal Libération, qui n'est pas toujours très bien inspiré. Enfin, parfois, mais pas toujours très bien. Libération a titré Larry Clark censuré. Mais cette interdiction aux moins de 18 ans, c'était pour pouvoir montrer l'intégralité de l'œuvre de Larry Clark qui lui-même avait donné son accord. Donc, en fait, celui qui décrète la censure, et on peut comprendre, ça signifie, attendez, un artiste qui parle d'adolescents devrait pouvoir s'adresser à des adolescents, c'est ça que ça voulait dire. Mais est-ce que vraiment la mairie de Paris fait un acte de censure en préservant l'intégralité d'une exposition en l'interdisant aux moins de 18 ans ? Je ne vous dis pas que j'ai la réponse, mais je suis sûr de la question, et je suis sûr du fait qu'on voit bien comment le vocable de censure, à ce moment-là, est problématique.
Oui, mais enfin, il y a des exemples qui ne sont peut-être pas aussi récents, mais qui sont contemporains, qui me viennent à l'esprit en écoutant. L'interdiction de la représentation des paravents de Jean Genet par Malraux dans les années
66, je crois.
66, après la guerre d'Algérie, à l'Odéon, c'est vraiment...
on est d'accord. Oui.
L'interdiction de la religieuse...
Absolument, même année.
Adaptée de Diderot la même année. Bon, et c'est ces agissements-là qui ont été... à l'origine de mai 68.
Jérôme, mais alors là vraiment, je vous invite à bien considérer quel type de ministre était Malraux, qui n'était pas du tout, qui était évidemment un homme extraordinairement cultivé, éclairé, etc. Mais lisez, c'est très facile à trouver, hein, par exemple, les textes de Malraux sur le cinéma au moment où il inaugure la Maison de la Culture de Bourges. Vous apercevrez que c'est pas du tout, on n'est plus du tout dans la même époque. C'était pas du tout des points de vue permissifs sur l'art, pas du tout, du tout. Malraux, on appelait beaucoup à la responsabilité de l'artiste et disait notamment du cinéma. Je suis très curieux du point de vue de Amos sur la question, que c'était potentiellement une force. Hein, il le dit, hein, une force de mort, une force de mort. Il dit ça, Malraux. Et il dit, il faut vraiment se méfier de ces puissances industrielles. Il vise notamment Hollywood, qui pourraient pervertir l'ensemble de la planète. Hein. Encore une fois, vous trouverez ces textes sur Internet, c'est très facile à aller dégoter. Et d'ailleurs, ça lui vaut une réponse de Godard, qui, d'une certaine manière, le traite de complice des nazis et de collaborateurs, vous voyez, à Malraux. Et tout cela a bien changé depuis, mais je crois que vraiment le contexte pré-68 est assez différent.
Oui. Non, il est différent, mais c'est pas si vieux non plus. Est-ce que ça peut revenir aujourd'hui ? Sans doute pas sous cette forme. Mais Amos, qu'est-ce que tu penses de ces actes ? Est-ce qu'il y en a aussi ? Est-ce que tu en as connu ? Est-ce que tu pourrais en connaître en Israël, par exemple ?
Oui, moi, j'étais censuré. Les premiers films et House étaient censurés. Et je crois que, par exemple, si tu parles d'Israël...
Tu connais bien la censure en Israël.
Je connais, oui. Et d'ailleurs, pour être à nouveau pas d'accord avec Malraux, c'est-à-dire les cinéastes israéliens, je parle dans le sens plus général, pas seulement de mon travail, c'est le médium actuellement qui est le plus critique des pouvoirs israéliens. Parce que historiquement, c'est l'écrivain qui suivait un peu les traditions russes, de l'intelligentsia russe. Alors, il y avait le grand écrivain qui était toujours une sorte de sagesse de la nation, mais là, c'est un peu... avec la mort d'Amos Oz, ils sont un peu plus fatigués. C'est effectivement les cinéastes. Et les plus simples preuves, c'est que le ministre de la Culture israélien actuel, elle matraque sans arrêt le cinéma, parce qu'il apporte un autre point de vue. Et je suis d'ailleurs très content que, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont nommé président des jurys des projets qui étaient le Festival de Cannes de 1939, que Jean Zay, qui était ministre d'éducation qui avait une idée de faire un festival anti-Venise, parce que le Mostra de Venise et le Biennale étaient créés par Mussolini dans l'année 30. D'ailleurs, qu'il a primé Leni Riefenstahl, il est Lion d'or de Venise. Et la France, et Jean Zay, qui était ministre de l'Éducation, il veut créer le premier festival de Cannes en 1939, avec une date, il ne savait pas, très problématique d'inauguration du festival, qui était le 1er septembre 1939. Alors, ce festival, il n'a jamais eu lieu. Et comme cette année, on est 81, on est dans l'anniversaire, et ils m'ont demandé, ils m'ont écrit une lettre qui m'a touché beaucoup, le défi de Jean Zay, qui était assassiné par les milices, par les collabos français en 1944. Et le défi et le comité, il a dit, tu étais élu comme le cinéaste antifasciste le plus important. On te demande de présider le jury du festival qui n'a jamais eu lieu, de 1939. Et c'est une tâche très problématique parce que j'ai des petits cinéastes qui envoyaient leurs films en 1939 dans lesquels Sergei Eisenstein, Cécile Demille, et Capa et des autres. Et je crois que mon travail de délibération des jurys va être très, très dur. Mais c'est-à-dire que Jean Zay et des autres, ils ont compris effectivement que le cinéma, c'est un médium très fort et très puissant. Et je suis d'accord plutôt avec Godard. Qui peut poser des questions à sa formule, parce que c'est le bon cinéma, pas tout le cinéma, mais le bon cinéma, c'est une sorte de synthèse entre les idées, de la forme, un petit hommage à Walter Benjamin, des reproductions d'images, des reproductions de sons, des mouvements, des chorégraphies. Et je crois que c'est potentiellement un médium formidable contemporain qu'il ne faut pas être timide, il faut utiliser, il faut dire des choses. Alors, est-ce qu'on va être censuré? Je ne crois pas que ça doit rentrer dans les calculs préalables des cinéastes. Est-ce que je vais être censuré ou non? Je suis complètement d'accord avec Thomas que des fois, il y a trop ici, il y a trop de calculs préalables. Est-ce que je vais être censuré ou non? Alors, ça produit des choses gentilles, qui n'est pas tellement un compliment de mon vocabulaire. Mais le cinéma, c'est un médium très fort. Et même si je ne suis pas amoureux du cinéma américain, je donne ça aux Américains. S'il y a un président corrompu, très bien, on va faire 10 films. S'il y a une guerre stupide, on va faire encore. C'est-à-dire que le cinéma remplit son fonction aussi, même les films que je n'aime pas comme film, de véhiculer les idées nécessaires et de dialoguer avec le contexte. Et il n'est pas toujours dans les timidités, qu'est-ce qu'ils vont dire, est-ce qu'ils vont aimer, non. Les démarches des artistes ou des cinéastes, je fais un geste cohérent et parce que la vérité qu'on ne sait rien. C'est-à-dire, comme j'ai fait par exemple Kadosh, etc., qui était distribué dans 30 pays, je ne savais pas si ça intéresse personne. Tu vois, les questions sur la religion, etc. Et c'est pas, il ne faut pas rentrer cette sorte de calcul en avance. Nous, on fait notre geste, la censure, elle va faire son travail. S'il y a une confusion entre je me souviens que j'ai montré un film à la Cinémathèque de Jérusalem, le directeur de Cinémathèque, il m'a dit, oui, est-ce que tu as passé par la censure militaire? Alors, ma réponse était, d'un pays civilisé, la Cinémathèque monte de film, la censure militaire fait le travail. C'est-à-dire, et là, il y a trop de confusion de pré-censure qui devient que l'art devient trop timide. Comme je dis, trop timide, ce n'est pas que je cherche des provocations gratuites, mais il faut que l'art engage avec les règles. La France, elle a des vrais sujets qui méritent d'être traités. Et il faut qu'il y ait un cinéma fort qui parle des questions de souffrance, de misère, par de bonnes œuvres. Ça, c'est si important comme les thématiques. C'est-à-dire, il faut aussi faire de bons films. Alors, la réponse n'est pas facile.
Alors,
s'il y a des questions, je réponds.
Parce oui, juste une remarque.
Le TGV, il ne va pas attendre.
Et après
une seconde, juste, parce que comme j'ai une oreillette, on me précise que j'ai dit une erreur. Jean-Luc Godard, en fait, écrit sa lettre à Malraux suite à l'interdiction de Rivette et de la religieuse, pas après le discours de Bourges. Et la deuxième chose quand même que je trouve symptomatique dans les logiques de censure, c'est que quelqu'un comme Godard a été censuré dans les années 60 comme Rivette et comme d'autres. Et aujourd'hui, si vous avez une censure, elle ne va pas venir véritablement de l'État, mais par exemple de l'interdiction, en tout cas de la réclamation d'une interdiction, d'une rétrospective Polanski à la Cinémathèque qui, pourtant, elle, est autorisée évidemment par les pouvoirs publics. Voilà.
Oui, l'exemple de Polanski est un bon exemple, un très bon exemple. Bon, il nous reste 9 minutes, une dizaine de minutes pour répondre à des questions avant que Amos nous quitte. Est-ce que qui veut prendre la parole?
Alors, excusez-moi, je suis là.
Oui, Damien.
Alors, d'accord. Alors, peut-être une question du public, effectivement, d'abord pour Monsieur Guitaille avant qu'il puisse partir.
Alors, qui veut prendre la parole? Oui, Monsieur. Au troisième rang.
Bonjour, merci pour votre réflexion. Donc une question pour Thomas, je n'ose pas d'ailleurs prononcer son nom de peur de l'offenser.
Ça m'offensera pas.
Donc la familiarité, excusez-moi. Donc c'est juste, à moins que ça m'échappe, parce que tout ce que vous avez dit, j'ai trouvé ça très très pertinent, mais vous avez insisté sur le fait qu'il fallait tenir compte vraiment, en parlant de l'affaire de Véronèse, l'artiste doit tenir compte aussi de ceux qui risquent d'offenser. Mais dans ce cas-là, quid de la liberté? Où est la liberté de l'artiste s'il commence à penser à ceux qui l'offensent? Enfin, moi, je vois plus où on peut aller.
Je vous jure que je vous répondrai tout à l'heure, mais comme Amos Guitaille doit nous quitter...
Oui, d'accord, la question, c'était pour Amos. Excusez-moi,
promis,
moi, je vous appelle...
On répondra tout à l'heure.
D'accord, c'était uniquement pour Amos.
Parce qu'on aura un deux...
Donc, excusez-moi d'avoir... Non, on la garde pour tout à l'heure.
Vous ne m'avez pas offensé.
Amos, sur cette question.
Quelqu'un a une question pour Monsieur Guitaille?
Je crois que tout est clair.
Non, visiblement pas.
Oui. Quelqu'un là, monsieur? Monsieur? Oui.
Vous avez parlé du blocos là-bas sous-marine, et je me suis rappelé dans une encyclopédie sur l'art du XXe siècle que effectivement les nazis avaient combattu le Baos. Et qui est un art très épuré, fonctionnel. Et il disait dans cette encyclopédie, paradoxalement, les ouvrages du mur de l'Atlantique font du Baos. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation?
Elle dit que non. Quelqu'un dit que non. Écoute, je n'ai pas pensé à cette question, pour vrai dire. Non, mais la chose qui est très intéressante dans les bases, on peut parler d'architecture, parce que j'étais formé strictement comme architecte. Et après que j'ai fini mon doctorat à Berkeley, j'ai commencé à faire des films. Mais moi, je trouve que la chose qui est intéressante, ce n'est pas seulement les bases, mais cette époque, que par exemple, il y avait un concours dans les années 20 à Stuttgart, qu'il y a les plus grands architectes d'époque, Le Corbusier, Mies van der Rohe, Gropius, etc., comment on peut dessiner un appartement de 70 mètres carrés? C'est-à-dire, les plus grands architectes d'époque étaient appelés pour essayer de trouver des solutions architecturales, des choses, des grands talents d'architecture. Et ce projet existe toujours à Wissenhof, je crois. À Stuttgart. C'est-à-dire l'architecture aussi, comme certains aspects d'art plastique, pas tellement au cinéma, ils ont eu une sorte de délire de forme, de gestes strictement formels, vides de contenu. C'est-à-dire l'architecture de base, elle doit aussi avoir un rapport fonctionnel avec les besoins humains et esthétiques. C'est-à-dire les choses intéressantes dans les bases, c'est la synthèse entre les choses esthétiques, de comme une autre pensée d'esthétique moderne. Et d'ailleurs, pour mettre un petit parenthèse sur l'histoire des pouvoirs politiques, moi j'étais allé voir à Bonn, par exemple, la chancellerie de Adenauer. Et je crois que j'ai compris beaucoup de choses. Comment il a compris qu'il faut que l'Allemagne fédérale va prendre distance de tout cette kitsch de. Des spères, des choses terribles qu'il a créées à Nuremberg, et faire une chose moderne, transparente. Pas du tout le palais d'Élysée avec toutes les choses dorées, pas du tout d'architecture monarchique, mais une architecture modeste. Et je crois que l'aspect moderne de l'Allemagne fédérale, qui essaie de reconstituer des paramètres après la guerre, elle est aussi dans les iconographies architecturales. Mais ça, c'est un immense sujet. Et ça, après que j'ai fait un retour de TGV, je vais raconter un autre fois.
Monsieur ?
Alors,
oui ?
Il y a une autre question.
Ah, pardon, monsieur, oui.
Oui. Je souhaitais avoir l'avis, le sentiment d'un Israélien par rapport à l'autocensure. Donc, dernièrement, un grand quotidien new-yorkais a décidé de supprimer des caricatures de presse. Et donc, je pense qu'on est aussi dans l'art. Que pensez-vous de cette situation où, apparemment, il y a donc une entrave à la liberté d'expression ?
C'est-à-dire, j'étais étonné, effectivement, que le New York Times a décidé de ne plus faire des caricatures. Écoute, on est tellement bombardé par des fake news, par l'homme politique elle-même, il mérite de voir un peu des mêmes traitements avec une dose plutôt artistique. Alors, moi, je n'ai pas compris comment un grand quotidien comme le New York Times suit cette idée.
Monsieur ?
Bonjour, monsieur. Merci de votre invitation au Bordelais à assumer une page de l'histoire. Sur la base sous-marine, il y avait des milliers d'étrangers qui étaient des prisonniers politiques. La grande majorité d'entre eux, c'était des résistants et des républicains espagnols. Mais il y avait également des Portugais, des Italiens et d'autres personnes qui étaient prisonniers. Ce qu'il faut également savoir, c'est que la base sous-marine a été construite à Bordeaux grâce à la collaboration des grandes entreprises bordelaises. Il y a eu même des fortunes qui se sont faites là-dessus. Donc c'est juste pour rappeler cette page de l'histoire. Je pense qu'il est important, à un moment donné, de se confronter à cette page de l'histoire. Et il y a effectivement, à côté de cette grande base, un petit monument à la mémoire des républicains espagnols, dont beaucoup sont morts dans la base. Et la résistance à Bordeaux a commencé à la base sous-marine.
Moi, je suis très content de votre discours. C'est parce que j'aime cette ville, Bordeaux, que je trouve une ville formidable, que je fais ce conseil qu'il y a trop de crèmes artistiques qui disent rien. Et c'est vraiment une bonne occasion de parler d'histoire. Alors, j'ai lancé cette idée. Je suis sûr qu'il y a certains qui ne vont pas aimer le sens que je dis, mais je trouve que c'est un acte amical. Et que Bordeaux fait face à son histoire et fait un marche au-delà, c'est-à-dire de vraiment fait un challenge. Et c'était l'idée comme on a fait il y a 10 ans, et les choses qui m'ont fait beaucoup de plaisir de travailler avec les Bordelais sur l'installation que j'ai fait. C'était ça comme idée. Et je vous remercie, c'était très agréable de partager ce moment avec vous.
Bien, nous remercions Amos et le salon.
Merci beaucoup.
Merci, Erika.
Là, vous savez, c'est l'angoisse de celui qui se dit combien il y en a qui vont quitter la salle parce que Amos Gitaï part. Je regarde. Ça va. Et là, c'est mes copains qui partent. Non, mais c'est pas vrai.
On poursuit le débat. Il y a une question tout à fait importante qu'on a évoquée au début, mais à laquelle on n'a pas répondu. C'est par rapport à la numérisation et aux réseaux sociaux. J'étais assez frappé l'autre jour en lisant une interview dans le journal du dimanche à propos de l'émission On n'est pas couché, dans lequel comment il s'appelle déjà
Laurent Ruquier.
Laurent Ruquier. Expliquait que son émission devenait impossible à faire parce que la pression des mails, des tweets, surtout des tweets d'ailleurs, l'empêchait de travailler, quoi, juste simplement, et une pression qui devenait insupportable et qui faisait réagir aussi les politiques en intervenant sur le contenu des émissions, simplement parce que d'un seul coup, il y avait une mobilisation. Cette mobilisation, elle peut être individuelle, elle est parfois organisée de façon collective par des sous-groupes ou par des groupes, et ça crée des conditions pour les artistes, enfin pour ceux qui réalisent, les intellectuels, n'importe qui rend la vie simplement impossible. Donc c'est un phénomène nouveau, celui-là, auquel nous sommes confrontés. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas des groupes de pression avant, il y en avait, mais ils ne se manifestaient pas de façon personnelle en rentrant dans l'intimité de courriers et de sa propre existence. Et je pense que ce problème-là, qui est une nouvelle forme de censure, ou en tout cas de pression collective sur l'acte de création ou sur l'expression d'une liberté de s'exprimer, de simplement de communiquer, pose un problème nouveau.
C'est évident, il y a aujourd'hui une effraction possible pour quiconque dans le débat public et très facilement sous forme d'invective et d'agressivité. C'est absolument incontestable. Et c'est d'autant plus toxique, nocif, que l'effet de groupe et l'effet d'anonymat est très simple, très très simple. Et ce qui est très dur en plus, j'ajouterais encore une autre couche, c'est que ces prises de parole négatives et agressives, injurieuses, elles flottent à la surface du temps. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, Internet est une caisse de résonance qui ne s'efface, pour ainsi dire, jamais. Qui revient sans cesse. Il suffit de taper le nom de une quelconque personnalité publique sur Internet pour s'apercevoir que très vite, des forums dans lesquels il y a eu des choses parfois innommables, eh bien, sont là, bien présentes, et continuent d'une certaine manière de polluer des initiatives, des prises de position de tel ou tel autre individu. Donc, incontestablement, c'est extrêmement pénible. Maintenant, Jérôme, il faut quand même mesurer une chose, c'est que j'ai le sentiment, je peux me tromper, hein, mais j'ai le sentiment qu'il y a eu pendant beaucoup d'années l'impression pour une grande part de la société d'avoir des prescripteurs d'opinion d'un côté qui avaient voix au chapitre via les médias. Par exemple, ce qui était, pardon de le dire comme ça, parce que j'en étais un spectateur totalement convaincu à l'époque, mais dans les années 90, la bonne conscience de Canal+. Hein, et qui aurait voulu pouvoir dire quelque chose à l'époque et où c'était absolument impossible de se manifester. Et alors là, on est dans l'excès inverse aujourd'hui, c'est que c'est devenu tellement simple de se défouler contre des prises de parole que d'aucuns considèrent comme dominantes. Par exemple, voilà, le débat récurrent, les journalistes sont à gauche et donc toute personne qui est... plutôt de sensibilité du Rassemblement national, va immédiatement venir avec cet argument. Et ça lui fait du bien de pouvoir déverser ça sur les réseaux sociaux, parce que pendant tant et tant d'années, cela n'a pas été possible. Je ne dis pas c'est bien, je ne dis pas c'est mal, j'ai un avis sur la question, mais ça me semble d'une certaine manière assez inévitable historiquement, après des années de frustration, où il y avait beaucoup d'experts autoproclamés, de chroniqueurs, d'éditorialistes, et où aujourd'hui ça ne marche plus de la même manière. Voilà.
Oui, on en a un peu parlé hier d'ailleurs dans le débat sur les libertés publiques, c'est de voir que c'est une nouvelle liberté de pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux pour dire ce qu'on veut. Donc on peut dire, on devrait applaudir, et c'est vrai qu'on s'en réjouit aussi. Mais ça pose aussi d'autres problèmes qui peuvent parfois... pour une opinion un peu forte, pour une exposition, pour un artiste, pour un film, pour n'importe quoi, devenir simplement une forme de censure d'une minorité qui s'exprime pour empêcher qu'un acte de création. Donc, on n'a pas trouvé encore la réponse à cette question, évidemment, parce que c'est trop nouveau et qu'on ne sait pas comment traiter ça. Mais je pense que c'est un vrai sujet qui se pose aujourd'hui aux démocraties, non seulement dans le domaine de l'art, d'ailleurs, dans beaucoup d'autres domaines, y compris les domaines purement politiques. On a parlé tout à l'heure longuement de la question de la censure politique, un petit peu rapidement de la censure économique. Il y a évidemment aussi la censure religieuse, ou en tout cas l'expression. Et maintenant, on a cette nouvelle forme de censure.
Et alors, sur Internet, ça s'en double d'une autre qui peut sembler pour le moment parfaitement anodine. Forcément, vous êtes tombé sur ces affaires où, par exemple, L'origine du monde de Gustave Courbet est censurée par Facebook. Et le compte est, je sais plus comment on dit, enfin, la personne est congédiée, le compte est clos, etc. Alors, en règle générale, quand on lit ça, on a un petit sourire en coin, on se dit, tiens, c'est amusant parce que, au fond, Facebook est débile, ils confondent ce qu'est une œuvre majeure du 19e siècle et de la pornographie. Et c'est pas si amusant que ça. C'est pas si amusant que ça parce que, à mon sens, c'est le signal aujourd'hui d'une censure qui, dans les années à venir, peut devenir très, très pernicieuse. Cette censure, c'est la censure des algorithmes, la censure des machines. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si vous expliquez à n'importe quel médiateur de Facebook ce qu'est l'origine du monde, et que le tableau apparaît sur le compte d'un professeur de français, il suffit que vous lui expliquiez en 10 secondes de quoi il s'agit, et il dira, non mais, on laisse le contenu intègre. Ça, vous ne pouvez pas vraiment l'expliquer à une machine. Or, Facebook nécessite d'avoir des routines informatiques qui lui permettent de traiter des masses d'informations absolument incommensurables. Et je vais vous dire une chose, c'est que ça ne va pas aller en s'améliorant. De plus en plus, on va laisser la gestion des réseaux sociaux à des machines et non pas à des médiateurs humains. Et donc, pour le moment, ça peut sembler vraiment comme ça des petites affaires, mais moi, je suis persuadé que si on doit être vigilant, c'est à partir de maintenant. C'est en ayant conscience de ça maintenant. Je ne vous dis pas que ça va être l'enfer numérique et les films de science-fiction demain. Je n'en sais rien. Je n'ai pas envie d'être un oiseau de mauvaise augure ou un décliniste dramatisant. Mais, en revanche, je crois très sincèrement que notre mission de citoyen, notre mission d'intellectuel, c'est d'être vigilant au moment où les premiers signes apparaissent. La censure des algorithmes, la censure numérique, c'est un vrai enjeu potentiel pour demain.
Bien d'accord. Alors, il nous reste un petit peu de temps. La question de monsieur, peut-être, à laquelle Thomas n'avait pas pu répondre tout à l'heure.
Monsieur me posait la question, et qui est, je suis sûr, une question que vous êtes très nombreux à vous poser. Il me dit, mais attendez, vous dites que, en prenant le cas de Véronèse, vous me dites que il faudrait que les artistes soient à l'écoute de ceux qui les contestent, de ceux qui sont offensés, mais sa liberté dans tout ça. Je vous dis tout de suite, c'est une question qui est très difficile, qui est la vraie, la grande question. Elle est très difficile, et pour revenir une seconde au XIXe siècle, c'est assez amusant de constater, par exemple, qu'en 1822, vous avez un critique d'art, tout jeune, qui dit qu'à la phrase suivante, il dit « Il faut que l'artiste soit libre et libre de la manière la plus illimitée ». Qui est une injonction paradoxale, parce que s'il faut qu'un artiste soit libre, ça veut dire qu'il est contraint à cette liberté. L'autre chose qui est assez amusante, c'est que l'auteur de cette phrase est à ce moment-là un jeune critique d'art, il s'appelle Adolphe Thiers. Adolphe Thiers qui deviendra l'un des hommes politiques les plus honteux, je pense, du XIXe siècle. D'ailleurs très intéressant sur tous les débats mémoriels de se demander pourquoi, après tout, s'il faut débaptiser les rues aujourd'hui, on débaptiserait pas les rues Adolphe Thiers. Je vous assure, c'est une bonne question. Parce que, allez, juste très vite pour vous dire, je pense que toutes ces questions sur, grosso modo, la censure de nos commémorations par les monuments, c'est l'enjeu des grands hommes et de la place que nous accordons aux hommes de pouvoir, en fait. Bon, je passe, c'est vraiment une autre question. En tout cas, Adolphe Thiers, c'est très intéressant, est un homme qui a appelé à la plus grande liberté artistique et qui, au moment où il est au pouvoir, au début de la Troisième République, après la Commune, va par exemple interdire les reproductions de la Commune, ce qui explique que nous n'ayons pas de peinture, en dehors d'une de Maximilien Luce, en tout cas pas de peinture contemporaine, des abominables scènes de guerre civile de la Commune. Bien. Tout ça pour vous dire que souvent, ceux qui appellent à la liberté maximale des artistes ne sont pas les gens les plus recommandables. La deuxième chose, c'est que... je ne dis pas ça pour vous, hein, monsieur, évidemment, c'est pas... La deuxième chose que je voudrais que vous ayez en tête, c'est que, en fait, on est tous un peu comme des petits-enfants quand on pense qu'il y a des grands qui auraient entre leurs mains la magie d'une liberté maximale. Ça nous enchante. On se dit, ah, moi, je sais pas, je suis notaire, boulanger, chômeur, ouvrier, etc. Mais il y a les artistes qui ont toute latitude, toute liberté. Heureusement qu'ils sont là. En fait, c'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme. Les artistes ne sont pas absolument libres. Je donne un exemple très simple. Je veux dire, quand un metteur en scène fait un spectacle, mais il a une première contrainte qui est de veiller à la sécurité de ses acteurs,
aussi simple que ça. Donc en réalité, ce qu'on imagine comme une liberté absolue est simplement une catégorie philosophique totalement hors sol. Il n'y a pas de liberté absolue chez les artistes. Ils y tendent sans y prétendre. Ils s'y mettent, mais ne peuvent rien promettre. Tout ça pour vous dire qu'il faut peut-être un tout petit peu désacraliser cette notion de liberté. Et se dire aussi, et ça je crois que c'est vraiment très important, que pour qu'il y ait liberté de l'artiste, il faut qu'on arrête de penser les choses en termes aristocratiques. Il y aurait ceux qui seraient émancipés et ceux qui devraient être en extase devant ceux qui bénéficient de l'émancipation. Non, il y a ceux qui sont libres parce qu'ils créent, puis il y a ceux qui sont libres parce qu'ils sont le public qui regarde ces créations. Et ils sont libres de dire « ça ne me plaît pas, je trouve ça nul, j'aime pas, etc. » Ceux qui ne sont pas libres de faire, c'est le vandalisme, l'injure, l'action directe. Ça, c'est vraiment pas bien. C'est même totalement scandaleux. Toute œuvre de l'esprit mérite considération et existence. En revanche, c'est vrai que ce qu'on pourrait se dire, c'est que s'il y en a certains qui en viennent à l'injure, à l'action directe, au vandalisme, et malheureusement, je ne parle même pas de ça, de l'horreur absolue du meurtre, c'est, oui, évidemment de Charlie Hebdo, naturellement, c'est parce que, je ne dis pas qu'ils ont raison ou qu'ils ont tort, mais en tout cas, c'est qu'ils ont le sentiment de ne pas être entendus. Mon avis personnel, c'est que quelqu'un qui dit « je ne suis pas entendu et je viens saboter une œuvre qui est exposée », je ne sais pas, allez, on va dire, pour prendre un exemple précis, je vais venir interférer dans la représentation d'une pièce de théâtre au Théâtre de la Ville de Romeo Castellucci en 2011 ou Rodrigo Garcia au Rond-Point, je trouve ça absurde. Mais en revanche, on ne peut pas faire comme si ces gens-là n'existaient pas et comme s'ils n'avaient pas quelque chose à faire valoir. Et quand je dis ces gens-là, c'est nous tous d'ailleurs, parce qu'il y a plein de fractions agissantes qui sont contradictoires entre elles. Il n'y a pas simplement les méchants intégristes, qu'ils soient catholiques ou musulmans, il n'y a pas les méchantes féministes, il n'y a pas que les méchants décoloniaux, etc. Pas du tout. D'abord, ils ne sont pas si méchants que ça, parfois. Et puis, d'autre part, vous voyez que, ne serait-ce qu'en parlant de ces différentes fractions de public, eh bien déjà, il y a une cartographie assez large du spectre social qui se dessine et qui vous montre qu'on est tous concernés, d'une manière ou d'une autre. Ce qui veut dire qu'on a besoin de se parler. On a besoin de se parler entre, d'un côté, le pôle de la libre expression et création, que sont les artistes, les créateurs, si vous voulez, et les différents publics. Voilà, je crois que c'est très important.
Bien, merci beaucoup. On va prendre encore une ou deux questions. Oui, monsieur. Voilà, deux mains qui se lèvent et
oui,
après on arrête.
Je vais juste donner la parole à Anne-Laure Pires qui avait levé la main la première, qui est membre du C2D. Alors, le C2D qui a co-organisé ces entretiens Liberté. Nous avons organisé avec des citoyens en amont des ateliers d'arpentage littéraire, c'est-à-dire des ateliers de lecture collective et notamment sur l'art et la censure, le bouquin de Thomas Schlesser. Et donc il y a des questions qui ont émergé.
Un bon cadeau pour les fêtes.
Un magnifique bouquin.
Étonnez vos amis.
Que nous avons déchiré, mais ça, c'est les règles de l'arpentage littéraire.
Bonsoir. Oui, c'était un travail très intéressant, cette lecture collective. Alors, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, on entend que la censure est probablement nécessaire, parfois. Est-ce que les artistes ne s'auto-censurent pas? De plus en plus.
Si, alors, écoutez, je pense que, évidemment, on ne va pas se mentir, il y a eu le tournant Charlie Hebdo, c'est évident. Éviter cette question, on a un peu tourné autour aujourd'hui, je l'avoue, parce que c'est une question très compliquée et puis qui tout de suite monopolise ou cannibalise le débat. Mais bien évidemment qu'il y a, il y a de l'autocensure aujourd'hui. Et d'ailleurs, les artistes eux-mêmes le concèdent. Quelqu'un comme Philippe Guéluc l'a dit. Donc, c'est absolument, totalement déplorable, scandaleux et triste. Mais, en revanche, ce dont j'ai l'impression, c'est qu'on ne sortira pas de cette ornière et de cette impasse simplement avec des coups de menton en disant « la liberté d'expression totale », etc. Non, il va falloir qu'on se parle via des médiations, via des terrains neutres et pas en frontal. Mais voilà, pour répondre à votre question, oui, absolument, il y a de l'autocensure aujourd'hui. Ça ne fait pas de doute.
Merci. Monsieur, au milieu, oui, va où ? L'un ou l'autre, comme vous voulez.
mettez bien le micro contre le... Voilà. Attendez, monsieur, on va changer de micro parce qu'on ne vous entend pas.
Monsieur parlait d'une grande avenue à Bordeaux.
Oui, une grande avenue qui s'appelle l'avenue Thiers.
Ouais, sans H, hein, c'est...
Non. Quand elle arrive dans la commune limitrophe de ce nom, qui est traditionnellement socialiste, elle devient l'avenue Jean Jaurès. Hein. Non, ma question, c'est par rapport à ce que vous disiez auparavant sur la censure par les algorithmes. On parle bien quand même d'essayer de lutter contre les messages de haine, les appels au djihadisme, etc. Et alors, comment faire ?
Alors, en tout cas, je vais vous dire une chose. Évidemment, je n'ai pas la réponse. Ça, c'est le premier point. Je n'ai pas la réponse. En revanche, un élément de réflexion, c'est que cela m'étonnerait, je ne suis pas expert, cela m'étonnerait que ce soit parce que vous allez faire taire sur le plan du numérique, informatique, des appels à la haine, que les frustrations violentes vont tout à coup disparaître des cerveaux des uns et des autres. Enfin, j'y crois pas. Mais peut-être, hein, peut-être qu'en effet, la solution, c'est d'éradiquer toute forme, peut-être toute forme de paroles violentes pour que tout à coup, la violence s'épuise dans les cerveaux. Ce n'est pas mon avis. Et encore une fois, je ne suis pas expert.
Facile à dire, enfin facile à faire. Oui, monsieur, oui.
Oui, j'avais une question qui fait un peu écho à ce que vous disiez auparavant, Thomas. Vous nous rappeliez qu'un artiste, c'est un créateur, mais c'est aussi un producteur. C'est pas quelqu'un qui vit hors sol, qui est immergé dans une société, qui doit subvenir à ses besoins et dont l'œuvre d'art a vocation quand même à venir s'inscrire dans un marché avec une offre et une demande. Et je voulais savoir, justement, c'est une question que vous n'avez pas abordée pour l'instant, qu'en est-il de la liberté artistique à l'heure de l'émergence et du renforcement d'un marché de l'art où viennent s'investir des intérêts financiers de plus en plus importants, marché de l'art dont l'État est aussi un des acteurs.
Excellente question, énorme question. Tout petit préambule en 1 seconde 30, très intéressant, on n'en a pas parlé, le mot créateur. Vous savez qu'en fait, d'une certaine manière, au 15e ou au 16e siècle, on n'était pas créateur, on était créature d'un prince ou de Dieu. Ensuite, on est devenu créateur. Et dans les années 80, grâce en particulier à ce qu'on appelle les années langues, on est devenu créatif. C'est-à-dire tout le monde a pu devenir l'émanation du personnage créateur en étant un créatif. Bon, juste toute petite parenthèse. C'est une immense question. Simplement, pour la nuancer, cher ami, vous dire la chose suivante, c'est que la grande majorité des producteurs, ce que vous appelez les producteurs artistes, sont d'une immense qualité et complètement soustraits aux dérives spéculatives du marché. En d'autres termes, on pense souvent, en tout cas en ce qui concerne les beaux-arts, à des artistes comme Jeff Koons, par exemple, mais ce serait comme si on réduisait la musique je connais pas suffisamment la musique, à Beyoncé, si vous voulez, sans penser qu'il y a par ailleurs Pascal Dussapin. Le fait est que, en revanche, là où je vous suis dans votre critique, ce que vous dites, c'est aujourd'hui, l'État est complice d'une accélération de ces spéculations du marché, et finalement, il y aurait là quelque chose qui dévoirait un idéal artistique. C'est pas faux. À mon sens, c'est pas faux. C'est-à-dire, c'est comme si tout à coup la logique économique venait capter ce que serait la logique de production artistique. C'est pas faux, mais ça mériterait quantité de questions et de nuances, à mon avis.
Dernière question.
Oui, pardon. Quand vous envoyez un manuscrit à un éditeur, si il y a un éventuel possible problème, l'éditeur commence par le faire relire par un avocat ou par un cabinet d'avocats. D'ailleurs, maintenant, toutes les grandes maisons d'édition ont des cabinets d'avocats. Et donc, il y a la censure déjà à l'intérieur de la maison. Enfin, juridique. La censure. À l'intérieur de la maison d'édition, il y a ce problème de lecture et relecture et l'intervention des avocats.
Hyper intéressant. Et comme c'est la dernière question, je me permets de répondre juste en trois bonnes minutes parce que c'est une question fondamentale. Le premier élément de réponse, c'est le petit 1, qui a trait à l'édition en général. La phrase de Mathieu Lindon qui dit « La censure commence au premier manuscrit refusé ». Je ne le crois pas. Je crois que ça, c'est justement... C'est très intéressant comme définition de la censure, mais un manuscrit refusé, c'est un refus, c'est un rejet, c'est-à-dire qu'on estime que la chose est trop faible pour être promue. Il y a censure quand on estime que la chose est trop forte. C'est-à-dire que, tout à coup, on se dit, je ne vais pas produire la chose parce que ça a une telle puissance de percussion que je préfère que ce soit un autre qui s'en empare. Premier élément de réponse. Toujours sur ces problèmes sémantiques sur la censure. Deuxième chose, c'est que, à mon avis, il y a trois écueils. Je vous ai parlé de l'action directe, le vandalisme, hein, dans ces problèmes de la liberté d'expression. Deuxième écueil, je vous ai dit, il y a l'invective, l'injure, en particulier sur les réseaux sociaux. Troisième écueil, croyez-moi bien, c'est la voie judiciaire, la judiciarisation de la liberté artistique. Faites très attention à ça. Et voyez comme aujourd'hui, la question de la censure, c'est automatiquement, nous trancherons devant le juge. Mais non ! Écoutez, il faut qu'on soit capable de se parler avant de se parler par le biais d'un avocat dans un tribunal. Et j'ajouterais à ce titre que je connais beaucoup d'avocats qui sont des formidables avocats plaidant pour des artistes, pour le droit d'auteur, etc. Et attention, je veux dire, quand un avocat parle de liberté artistique, il y a d'emblée un petit conflit d'intérêts, puisque son intérêt à lui, c'est quand même d'aller au tribunal. Comprenez bien ça, hein ? Donc moi, je parle... Pardon, mais d'où je parle ? Je parle comme historien de l'art. Donc mon point de vue, je suis désolé de le dire comme ça, mais est quand même légèrement... est plus désintéressé que celui du juriste ou de l'avocat. Et troisième élément de réponse, et j'en aurais fini avec ça. En effet, quand un avocat va vous dire « je prépare le manuscrit avant qu'il puisse être publié » parce qu'il va vous le dire qu'il va le faire au nom de la liberté pour qu'il puisse y avoir un libre accès à un manuscrit. Et donc, il va le faire au nom de la liberté d'expression. Et au fond, on peut se poser la question si il n'y aurait pas par le biais d'un appel à la liberté d'expression, une censure préalable qui, aujourd'hui, serait la vraie censure.
Voilà, bonne question, bonne réponse. Bonne question, bonne réponse. Alors, nous allons clore, mais je crois juste avant que Thomas Schlesser avait une proposition qu'il a évoquée à la radio hier matin et qu'il souhaitait reformuler ce soir ici devant vous.
Merci Jérôme. En effet, hier sur France Culture, j'ai annoncé mon projet de création que je présenterai, j'espère, à l'automne au président de la République, un projet de création d'un comité national des libertés artistiques qui aurait trois rôles. Un rôle d'abord d'observatoire. Il ferait des états généraux des libertés artistiques régulièrement pour délivrer des comptes rendus, donner son aperçu des lignes de fracture, des principales tensions qui animent les artistes et leur public. Un rôle d'observatoire, donc. Deuxièmement, un rôle de conseil, c'est-à-dire orienter à la fois les artistes, mais également les fractions de la société civile qui peuvent se sentir mal à l'aise avec certaines œuvres vers les recours juridiques possibles pour justement éviter d'en arriver aux excès de l'invective ou de l'action directe ou de la judiciarisation, simplement une voie médiane, si vous voulez, hein, qu'on ne se retrouve pas tout de suite devant le tribunal. Et troisièmement, et c'est le plus important, qui jouerait un rôle de médiation, un médiateur, avec un terrain neutre, qu'il n'y ait pas la frontalité entre, d'un côté, une communauté qui se sent insultée et, de l'autre, un metteur en scène qui dit « mais de toute éternité, il faut brandir la liberté d'expression ». Ce n'est plus possible. J'aimerais que ce soit comme ça, mais ce n'est plus possible. Et si on continue comme ça, on n'arrivera pas dans notre démocratie moderne à faire la médiation de nos conflits qui est absolument nécessaire. Pas les conflits, la médiation. Donc, ce comité national des libertés artistiques, il pourrait être sur le modèle des autorités administratives indépendantes ou des autorités publiques indépendantes ou encore, ce qui a été jadis une autorité administrative indépendante, le Conseil consultatif national d'éthique, le CCN. Et voilà, je vous le dis, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup, où j'espère qu'il y aura une vraie écoute et un vrai soutien. Et donc, à l'occasion, rendez-vous est pris pour en reparler. Merci de votre attention.
Bien. Merci à tous d'avoir participé et suivi activement ce débat qui était très intéressant comme les deux précédents. Rendez-vous demain matin à 11h pour un dialogue avec Étienne Klein et Anne-Lorraine Bujon, directrice d'Esprit. Et nous espérons que vous serez nombreux à ce rendez-vous. Bonne soirée, à demain.